Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le dixième de notre dixième saison et je reçois aujourd'hui Gilles Bourguignon, bonjour.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous.
Alors Gilles Bourguignon, on vous connaît à Narbonne pour plusieurs raisons. Vous êtes un ancien joueur du Racing, vous êtes un entrepreneur depuis pas mal d'années également, mais on vous a découvert sous une autre facette récemment à propos de l'Ukraine. Vous organisez, alors d'une part, vous avez contribué à fonder une association qui s'appelle Narbonne Ukraine et que vous présidez aujourd'hui, et surtout, vous avez entamé un travail qui, à certains égards, est absolument colossal pour apporter de l'aide dans certains pays d'Ukraine. Alors, première question, pour l'ensemble des Français et même des Européens, l'Ukraine était quelque chose de loin, d'assez mystérieux. Pour vous, c'était un pays connu lorsque la guerre éclate.
Oui, tout à fait. Alors, c'est en effet, on a eu une relation avec ce pays via un canal un petit peu particulier, puisque avec mon épouse, en octobre 99, nous avons fait la démarche d'engager un parcours d'adoption dans ce pays. Et donc, nous sommes rendus à Kiev, la capitale, hein, après avoir renseigné un dossier bien complet concernant nos intentions et nos souhaits. Et puis de là, ben, on a été amené à visiter notamment un orphelinat à Kremenchug, au centre, région de Poltava, au centre de l'Ukraine. Et puis, ben, où nous avons fait forcément la rencontre de nos deux garçons, André et Nicolas, qui aujourd'hui ont 26 ans et qui à l'époque avaient 26 et 28 mois. Et puis où on a rencontré également la directrice de l'orphelinat, Natalia, son adjointe et bon nombre d'éducatrices. Mais on a également été accompagné durant ce périple d'un mois en Ukraine avec Tamara, une interprète, et Vladislas, un chauffeur qui ben voilà, nous accompagnait au quotidien. Donc on a évidemment pu découvrir ce pays. On a même visité la cathédrale Sainte-Sophie, par exemple, de Kiev et d'autres ensembles. Et puis, ben, on a découvert ce peuple ukrainien.
Oui, alors on comprend maintenant parfaitement votre lien si particulier et si fort, si serré finalement avec ce pays-là. Mais ça, c'était en 99, donc une dizaine d'années après le début de l'émancipation, on peut dire, de l'Ukraine, comme d'autres anciens pays de l'Union soviétique. Pourquoi avoir choisi celui-ci particulièrement, Gilles Bourguignon ?
Alors bon, je dirais le choix de l'adoption, on peut parler
c'est délicat,
de,
quoi,
on peut parler de choisir ou pas. En fait, c'est un peu lié aux opportunités qui se présentent. C'est vrai que lorsqu'on a eu l'agrément pour adopter des enfants, derrière le plus difficile parcours commence, puisque ben il faut essayer d'avoir des contacts avec des pays pour pouvoir adopter, puisqu'en France, ben c'est très délicat, il y a très peu d'abandon et tant mieux, et qui font que ben, des personnes qui veulent absolument adopter en France, parfois attendent 20 ans sans avoir aucune proposition. Donc nous, c'était pas notre vœu pieux de dire, puisque maintenant on a l'agrément, ben maintenant on veut des enfants. On a eu un premier parcours en lien avec la Roumanie, parce que à l'époque, ben, je jouais à Narbonne avec Tiberiu Brinza, qui était capitaine de l'équipe de Roumanie, dont la cousine travaille dans un orphelinat. Mais je dirais, la crainte sous le régime de Ceausescu, où la tenue des orphelinats était pas toujours respectable, a fait qu'on n'a pas voulu prendre de risques avec les dossiers médicaux qu'on nous proposait, qui étaient un peu et beaucoup d'inconnus. Et par contre, lorsqu'on a adhéré à une association des adoptants de l'Aude, on a rencontré une femme de Sigean qui venait de faire le parcours, elle, en Ukraine, et qui depuis deux mois avait pu adopter et était en France à Sigean avec son fils. quand on a vu l'épanouissement, quand on a vu la relation avec sa maman, avec son oncle qui passait au moment où on discutait avec la maman.
Vous avez été convaincu.
On a été convaincu que c'est des enfants qui étaient vraiment tout à fait bien entourés pendant leur parcours dans les orphelinats. Et que ça nous a donné envie et que les procédures étaient relativement faciles, abordables, et puis en plus une durée d'instruction en gros de 6 mois. En 6 mois, vous pouviez remplir les formalités, aller dans le pays et à l'issue de 3 semaines, 1 mois, revenir avec les enfants. Donc c'était un parcours court pour de l'adoption.
Oui. Alors on comprend particulièrement comment les choses ont pu se passer à ce niveau-là. Il semble que les dirigeants du pays, donc l'Ukraine de l'époque, avaient fait quelques facilités. Il y a eu une politique d'encouragement probablement à l'adoption.
Oui, tout à fait. Il y avait malgré tout dans ce pays bon nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté et donc il y avait beaucoup d'enfants abandonnés pour les personnes qui vivaient avec des ressources très très modiques et à partir de là ils ont ouvert un petit peu les vannes et en effet nous lorsqu'on est allé adopter il y avait aussi d'autres personnes qui étaient en visite également avec la même démarche. Oui,
donc manifestement, il y a eu ce qu'on peut appeler une politique, au bon sens du terme, décidée par les dirigeants.
Tout à fait.
Et alors, lorsque vous arrivez en Ukraine, et alors à Kiev, vous dites Kiev, Gilles Bourguignon, précisez.
Oui, c'est pas ce que je disais en 99, mais aujourd'hui, Kiev est le nom ukrainien de la ville anciennement connue, capitale Kiev. Et donc aujourd'hui, comme tous les Ukrainiennes et Ukrainiens dans leur pays qui souvent étaient plutôt russophobes, parlaient le russe plus couramment que l'ukrainien, aujourd'hui tous ont fait un parcours pour
un choix patriotique,
apprendre la langue et surtout abandonner la langue russe au profit de la langue ukrainienne. Et ben nous aussi, avec les limites de l'exercice, ne parlons pas ukrainien. En tout cas, pour la ville de Kiev, c'est assez facile.
Donc il faut le savoir. Kiev, c'est la version ukrainienne, c'est en langue ukrainienne de cette ville capitale.
Tout à fait.
Et alors, Gilles Bourguignon, lorsque vous arrivez à ce moment-là, quelle sorte de pays vous trouvez en fin des années 90?
Il y a un vrai contraste. On pensait en effet que peut-être, lié à la liberté qui était et démocratie toute nouvellement obtenue, qu'on trouverait peut-être un pays vraiment décalé par rapport au nôtre. Mais il se trouve quand on est arrivé d'abord à Kiev. On a retrouvé une ville de Kiev un peu comme Paris. On n'a pas vu vraiment un écart très significatif et on avait l'impression que les gens vivaient dans cette grande ville qui était belle et que c'était comme nous, quoi, avec les grandes marques, des grands magasins, Et par contre, dès qu'on quittait Kiev et qu'on avait fait 20 kilomètres, on se retrouvait dans des campagnes plutôt profondes où là, on avait l'impression de revoir des clichés de nos campagnes dans les années 1900 avec des charrettes, avec les personnes au bord de la route qui vendent quelques fruits et légumes en tas, comme ça, à même le sol. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai contraste à ce niveau-là. Par contre, après, on a vu des gens très ouverts, très accueillants, très sympathiques. Nous, on était toujours accompagnés de notre interprète parce que c'était évidemment sinon difficile pour nous puisque rien n'était écrit, bien sûr en français, mais rien en anglais non plus. Tout était en cyrillique, donc c'était très compliqué pour nous de pouvoir communiquer. Mais franchement, une relation avec des gens qui étaient relativement ouverts, même si lorsqu'on posait leur poser des questions sur leurs sentiments par rapport à leur vie d'avant.
Oui.
Sous l'emprise russe ou leur vie de maintenant avec cette liberté, démocratie. ils ont toujours eu tous et toutes du mal à nous répondre, y compris l'interprète, en disant oui, mais on peut pas dire, il y a des choses qui étaient bien avant, il y a des choses qui sont mieux maintenant,
donc, et c'était toujours une grande prudence dans l'expression personnelle.
Voilà, très grande prudence. On voit bien que c'est un petit peu
toujours la peur de l'espion.
La peur de l'espion, de propos mal interprétés, et donc on se livre pas. Se livre pas.
Et alors pourtant, après des décennies, voire des siècles de domination, alors russe d'abord, puis soviétique, à quel moment on a l'impression qu'il y a un déclic qui fait que l'Ukraine ne se tourne plus vers l'Est, mais vers l'Ouest, et vers l'Europe, et vers la démocratie?
Alors, pour moi, c'est un petit peu difficile de l'analyser, parce qu'on a, on a adopté en 99. Par contre, je pense que c'est très criard avec la volonté d'engager la guerre le 24 février 2022. Je pense qu'on voit tout de suite que Poutine pensait réellement, et les services de renseignement le pensaient aussi, et tout l'Occident, l'OTAN, tout le monde le pensait, qu'en 15 jours, 3 semaines, ben voilà, il allait reprendre l'Ukraine très facilement, et sans trop de difficultés, et en pensant sans doute que devant la force, devant la menace, en disant évidemment ces chars qui arrivent et comme tel un rouleau compresseur vont gagner, donc c'est pas la peine de s'opposer, il vaut mieux quelque part qu'on accepte de redevenir russe, et lui il l'a cru, sauf que
s'est pas passé comme
la population qui a goûté à cette liberté, à cette démocratie, a surtout pas voulu revivre ce qu'il vivait avant les années 1991. Et je crois qu'en fait, c'est là où Poutine aussi s'est trompé, pensait vraiment que ça serait plus facile parce que une partie du peuple qui, de toute façon, a une partie de sa famille, certains Ukrainiens ont de la famille à Moscou ou dans d'autres villes de Russie, etc., il pensait franchement... D'ailleurs, nous, c'est vrai, quand on a, en 99, on a rencontré tous ces gens, on les entendait parler plutôt de nos cousins, nos frères. C'était vraiment des mots en disant, voilà...
Il y avait vraiment une imbrication.
On a gagné notre liberté, mais quelque part, ça reste nos cousins, nos frères, un peu notre sang, et quelque part, voilà, on s'entend bien, même si chacun a
Ce qui voudrait dire donc que là, Poutine a fait une erreur stratégique fondamentale, voire une erreur historique, et que c'est une sorte de basculement dans l'histoire.
Oui. Moi, je le pense réellement, et aujourd'hui, je pense le manque de considération qu'il peut avoir envers l'humain, envers les siens, il l'a prouvé, puisqu'il y avait forcément des pro-russes dans toutes les villes, ou de nombreuses villes, et encore un peu plus dans celles qui sont au front de la guerre, et quand on voit un petit peu ce qu'il a fait à Mariupol, ce qu'il a fait à Bakhmout, c'est-à-dire, il n'y a pas de distinction, on pilonne, on détruit, pro-russe ou pas, ou pro-nazi ou ukrainien, je veux dire, tout le monde est traité à la même enseigne, la mort est assurée, ou presque, et quelque part, de suite, les encore pro-russes ou ceux qui se questionnaient ont compris que, de toute façon, ce ne serait pas le libérateur qu'ils avaient pu espérer, et qu'au contraire...
Et que ça serait un oppresseur. Voilà. Et donc, là, probablement que ça aura marqué l'histoire. Et l'histoire avec...
Et là, elle semble irréversible à ce niveau-là.
Le dira. Oui. On marque, Gilles Bourguignon, une première pause. On se retrouve dans une seconde partie où on va évoquer, alors beaucoup plus précisément, les actions, un grand catalogue d'actions que vous avez menées depuis l'entrée en guerre.